Donc, Ésaïe chapitre 6, nous arrivons à la fin du premier cycle d'enseignement sur Ésaïe. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire Ésaïe tous les 66 chapitres, mais on va faire des coupures pour ne pas le faire tous les dimanches. Et on arrive à la fin de notre premier cycle. Il y avait toute l'introduction dans les chapitres 1 à 5. Et bizarrement, on voit l'appel maintenant d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 6. Donc c'est un peu le récit de son appel. Et on va voir cela ensemble ce matin. Je lis d'abord le texte avec vous. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouge-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. » Et je dis, « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Donc, il y a trois parties de ce texte qu'on va voir ensemble et on va essayer de conclure par rapport à nous, quel sens ça peut avoir pour nous. La première partie, c'est la vision d'Ésaïe. Quand? Là, on peut situer la date. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est 740 avant Jésus-Christ. Parce qu'il le dit très bien, c'est l'année de la mort du roi Ozias. Donc, au moins, on le situe. Pourquoi il parle de la mort du roi Ozias? Pourquoi cet appel à ce moment-là? Le texte ne le dit pas. Il y a deux ou trois idées qui circulent. Le fait que Ozias avait régné longtemps et que c'était un moment d'incertitude. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer après un long règne? C'est peut-être cela, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, Ésaïe voit le Seigneur. Il a une vision de Dieu dans son temple. Et la première chose que l'on voit, c'est qu'il règne. Donc, même si sur le plan politique, il y a beaucoup d'incertitudes, Dieu ne change pas. Et Dieu règne. On le sait parce qu'il est bien dit, il est dans son temple, mais sur un trône très élevé. Je pense que c'est un verbe qui revient assez souvent dans les psaumes et dans les prophètes. L'Éternel règne. Il est le roi. Jésus est le roi des rois. Donc, il règne. C'est lui qui maîtrise la situation. Deuxième chose que l'on voit, c'est qu'il est saint. Même comme ici, trois fois saint. Parfois, on le dit dans des cantiques, trois fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Une expression qui revient dans l'Apocalypse, où ce sont les quatre êtres vivants qui chantent aussi que l'Éternel est saint. Et il ne faut jamais oublier le sens de saint. Le sens profond de saint, c'est toujours séparé. Donc Dieu est séparé du mal, séparé du péché. Donc quand Dieu dit « Vous serez saint car je suis saint », ça veut dire que nous aussi, on doit être séparé du péché. Pas forcément séparé des pécheurs, parce qu'on sait très bien qu'on est dans le monde, envoyé dans le monde, mais sans être du monde, mais séparé du péché. Dieu est saint, trois fois saint, tellement, tellement saint qu'il faut le dire trois fois. Et que toute sa cour, on va dire, crie qu'il est saint, on parle de ses séraphins. Parfois, on voit le mot comme voulant dire ange, mais c'est pas tout à fait ça. Selon certaines, enfin, j'ai cherché un peu le sens de séraphin. En hébreu, ça veut dire quelque chose qui brûle, en fait. Et on met souvent avec ce mot-là comme les serpents ailés qui piquent et qui brûlent. C'est bizarre, c'est pas l'idée qu'on a en quelque sorte. Mais c'est sa cour en quelque sorte. Et parfois on dit brûlé de sainteté. Bon, on voit pourquoi. Bon, ce sont des êtres qui forment l'entourage du Dieu qui règne et qui crie saint, saint, saint. Ensuite, il parle du fait que sa gloire ne remplit pas seulement le temple, mais la terre. La terre, toute la terre, est pleine de sa gloire. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot pour gloire en hébreu, c'est le même mot que poids. Quelque chose qui pèse très fort. Ça veut dire que ce n'est pas léger. Dieu est tout, parce qu'il pèse tellement fort sur tout. La semaine dernière, on a parlé de cela, dans notre étude, dans Ésaïe 5, pour dire que Dieu n'est pas une option qu'on ajoute à sa vie. On a sa vie, puis on met un petit peu de Dieu comme une option, comme on achète une voiture et on prend certaines options. Dieu est tout dans la vie, ce n'est pas une option. Donc c'est pour ça que sa gloire est lourde dans le bon sens, que ça pèse, que c'est important. Et cette gloire, on peut la voir partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. De voir déjà que dans ce sens, nous sommes des créatures glorieuses. Parce que nous sommes éternels, parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. On n'est pas simplement un petit bipède mammifère comme les autres qui se promènent sur la terre. C'est glorieux ce que nous sommes. Mais même toute la création, c'est extraordinaire, extraordinairement glorieux. C'est l'automne. Notre fille Clalise, qui vient de passer cette année à Madagascar, a écrit cette semaine pour dire « C'est la première fois que je vois l'automne en 7 ans ». Qu'est-ce que c'est beau! Elle n'avait pas vu, elle avait un peu oublié. Et je me souviens quand j'étais pasteur au Blanc-Ménil d'ailleurs, un dimanche d'automne, j'avais ramassé des feuilles avant le culte dans le parc. Et au moment du culte, j'ai distribué une feuille à chaque personne. Elle dit pendant 5 minutes, vous allez regarder cette feuille. Les couleurs, la forme, les nervures. Il n'y a pas une autre feuille qui ressemble. Mais c'est la gloire de Dieu de créer à partir de rien du tout des feuilles aussi belles. Donc la gloire de Dieu remplit la terre pour celui qui a les yeux pour voir. Et la réaction d'Ésaïe, c'est malheur à moi face à ça. Qui suis-je face à un Dieu qui règne? Qui suis-je face à un Dieu qui est saint, séparé du péché, qui est glorieux? Et qui plus est, selon le psaume 139, qui connaît toutes nos pensées, toutes nos paroles, etc. Malheur à moi. À ce moment-là, on reconnaît connaît impur et pécheur, comme Ésaïe dit, « Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est voir vraiment, je pourrais dire, je suis un pasteur dont les lèvres sont impures, et tous les membres de mon église ont les lèvres impures, en quelque sorte. Parce que c'est, on est pécheur. Mais à ce moment-là, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Parce que l'un de ces séraphins va vers l'autel, donc là on offre des sacrifices, il prend une braise, une pierre ardente, et il amène et touche les lèvres d'Ésaïe, et il dit, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Ça peut nous faire penser, par exemple, à un des gestes du jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où dans Lévitique 16, je vais lire le texte, deux versets, Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et deux poignées de parfum et portera ses éléments derrière le voile, donc dans le lieu très saint. Donc les braises représentent à ce moment-là le sacrifice offert sur l'autel. En tout cas, à partir de ce moment-là, c'est la bonne nouvelle. Je pense que c'est valable pour nous aujourd'hui. Les personnes qui ne veulent pas accepter leur péché, en quelque sorte, restent dans la culpabilité. À partir du moment où on accepte vraiment qu'on est pécheur et on demande pardon, on n'habite plus dans la culpabilité. C'est étrange, enfin, c'est la bonne nouvelle, tout simplement, l'Évangile. Donc ça, c'est la vision d'Ésaïe. La suite, l'appel d'Ésaïe. Du verset 8 au verset 10. À la différence de beaucoup de personnes d'ailleurs dans la Bible, quand Dieu appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Ésaïe répond tout de suite, me voici, envoie-moi. Parce qu'on a beaucoup, Moïse, Jérémie et d'autres qui disent, oh, moi je ne suis pas vraiment... Mais Ésaïe répond tout de suite. Un bon point pour Ésaïe. On va dire. Donc voilà, il répond tout de suite. Mais là, il reçoit une consigne qui ne comprend pas trop, qui n'est pas évident à comprendre non plus. Parce que Dieu dit, parle, mais personne ne va comprendre. Au contraire, plus tu parles, plus les gens vont pas comprendre. Parce qu'ils vont s'endurcir le cœur. C'est pas très encourageant pour Ésaïe. Il dit, voilà, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. J'ai trouvé que voilà, cet endurcissement sera en fait l'effet produit par la prédication d'Ésaïe. Parce que les gens vont mal réagir. Et plus ils refusent, plus ils s'endurcissent le cœur. Plus les uns et les autres refusent les injonctions divines. Dans la Bible du Sommeur, il y a une petite note qui dit « Dieu se sert du ministère d'Ésaïe pour produire l'endurcissement de son peuple. » Voilà, il parle et le résultat, c'est qu'ils sont endurcis. On va revenir à cette partie après, quand on l'applique un peu à nous. On reste avec ça pour le moment. Et la troisième partie du texte, c'est la question posée par Ésaïe au verset 12. Jusqu'à quand? Pardon, c'est le verset 11. Le verset 11, je dis jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ça veut dire jusqu'à quand cet endurcissement? Jusqu'à quand les choses vont continuer comme ça? Je ne sais pas s'y penser, combien de temps il va falloir que je continue comme ça sans avoir de résultat, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit jusqu'à quand? Et le résultat, c'est ce qu'on a déjà vu au chapitre 1 à 5 d'Ésaïe, pour ceux qui étaient déjà là, c'est que, en fait, Ésaïe, chaque prophète met le doigt sur la situation actuelle, donc il part du présent, il voit le présent de façon lucide, et il annonce l'avenir, continue de cela. Et on a vu déjà au chapitre 1 à 5 à plusieurs reprises que le résultat final, c'est que le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda, va être emmené captif à Babylone. Ça va se passer d'ailleurs un siècle plus tard. Mais Ésaïe l'annonce déjà. Donc jusqu'à quand? Ah ben, la réponse, il évoque en quelque sorte maintenant cet exil à Babylone, au verset 11 à 13. Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, parce que les gens vont être déportés là-bas. Jusqu'à ce que le pays soit ravagé par la solitude. Plus personne dans les maisons. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Parce que tous les leaders, en tout cas, vont être déportés à Babylone. Mais heureusement qu'il y a la dernière partie du verset 13 pour terminer ce chapitre. Ou, comme je ne sais pas combien de fois dans la Bible, on a le mot « mais ». Mais. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc, on a l'impression que tout a été enlevé, mais il restait quand même les racines. C'était quand même le tronc, et à partir de là, va renaître quand même un peuple. Qui est ce peuple? Il y a un petit reste qui va rester fidèle. On a déjà vu les semaines passées dans Ésaïe 1, verset 9, c'est l'Éternel des armées. Nous avez conservé un faible reste. Nous serions comme Sodome, comme Gomorre. Ou le chapitre 4, le verset 3. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence, de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc quelques-uns vont rester fidèles. Mais ces quelques-uns vont rester fidèles de génération en génération jusqu'à la venue de Jésus. Ésaïe 11. Et le verset 1, vous pouvez tourner la page, Ésaïe 11, verset 1, avec la même image de tronc et de quelque chose qui sort des racines. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est toute une prophétie sur le Messie qui va venir. Donc, malgré le danger qui se réalise de la déportation à Babylone, un reste sera conservé et ce reste deviendra le Messie. Et finalement, à partir du Messie, tout un peuple. Parce que dans l'Épître aux Romains, on voit que les chrétiens, les païens, sont comme greffés dans cette plante qui est Israël, pour former le peuple de Dieu. Ok, alors ça, c'est Ésaïe. Alors nous, dans tout ça. qu'il faut savoir, c'est que ce texte, du verset 10, enfin le verset 10, est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est intéressant de voir dans quelle situation. Donc le premier, c'est dans Jean 12, j'ai mis 37 à 43. Donc c'est par rapport à Jésus. Il arrive vers la fin de sa vie parce que le chapitre 13, c'est la dernière Pâque où Jésus lave les pieds à ses disciples. Mais à partir du verset 37, voilà ce que raconte Jean. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, donc les gens en Israël ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc ça, c'est le chapitre 53. Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe a dit encore, maintenant c'est le texte de ce matin, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, donc le texte qu'on a lu ce matin, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Deux choses là, à la fin de ce texte. C'est que, malgré tout, quelques-uns ont cru. Même si la plupart se sont endurcis le cœur par rapport à l'enseignement de Jésus. Mais il y a quand même un reproche qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et quand on le remet dans le contexte d'Ésaïe 6, où la gloire de Dieu remplit la terre, on a dit, la gloire des hommes, c'est quoi? C'est insignificatif. C'est pas de sens, ça n'a pas de poids par rapport au poids de la gloire de Dieu. Donc, la première chose qu'on peut dire avant de l'appliquer à nous, c'est que même Jésus n'a pas réussi à parler à tout le monde, à les convaincre. Donc, lui, en personne, n'arrivait pas. Sauf quelques-uns, bien sûr. Le deuxième texte, on en parle, pas de façon chronologique, mais c'est dans Acte 28, deuxième texte que je vous propose en tout cas. Acte 28, c'est la fin des Actes, où Paul, on le lit dans ce chapitre, a demeuré 2 ans dans une maison qu'il avait louée. Il était en résidence surveillée, il ne pouvait pas s'y occuper, mais il pouvait recevoir du monde. Et la communauté juive de Rome vient le voir et vient lui poser des questions. Donc je vais lire ce texte à partir du verset 23, acte 28-23. Je vais même commencer au verset 21. « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui a reporté ou dit du mal de toi, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte, donc les chrétiens, rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent donc un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Et l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient. Les autres ne crurent point. Et comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Sachez donc que ce salut, de Dieu a été envoyé aux païens, et que eux, ils l'écouteront. Bon, il ne faut pas oublier quand même qu'au verset 24, quelques-uns furent persuadés. C'est ça qu'il faut toujours retenir, même si beaucoup s'endurcissent le cœur, quand même, chaque fois, que ce soit la prédication de Jésus ou cette discussion qui a duré toute une journée avec Paul, quelques-uns ont cru. Et c'est là, je pense, le sens du troisième texte qui cite Ésaïe 6, c'est la parabole du semeur. On va chercher dans Matthieu 13. Je pense que je ne vais pas prendre le temps de lire tout ce texte. La parabole du semeur, vous le connaissez, je l'espère. Sinon, je résume vite. C'est un semeur qui va semer, mais certaines semences tombent sur un chemin où les oiseaux viennent le manger. D'autres semences dans les endroits pierreux. Il n'y a pas assez de sol pour que ça pousse. Et quand le soleil paraît, là, ce qui pousse est brûlé, faute de racines. Une autre partie tombe parmi les épines, et les épines étouffent la bonne semence, mais une partie de la semence tombe dans la bonne terre et donne du fruit. Et les disciples viennent voir Jésus pour dire « Je ne comprends rien. » Nous ne comprenons rien, comme toujours. Et Jésus leur cite justement Ésaïe. C'est pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous n'entendrez point, etc. Et puis il leur explique qu'en fait, la parole veut dire on sème la parole de Dieu. Pour certains, ils sont tellement endurcis que ça ne pénètre même pas, et les oiseaux, un peu le diable, enlèvent la semence. D'autres reçoivent avec joie, mais ce n'était pas vrai, ils n'avaient pas vraiment compris, ils n'avaient pas de racines. D'autres se sont laissés étouffer après par les soucis de la vie, par les richesses, etc. Donc, ils ne continuent pas. Mais une partie de la semence tombe dans la bonne terre et on devient un disciple de Jésus qui grandit et qui porte du fruit. Et on a parlé du fruit également dans Ésaïe, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure pour nous? Je pense que chacun de nous en cherche, on demande au Seigneur de donner des occasions de témoignage. Parfois, les occasions ne viennent pas. On peut passer du temps avec quelqu'un sans que cette personne semble du tout s'intéresser. Et on n'insiste même pas parce qu'on voit que ce n'est pas le moment. D'autres personnes discutent et discutent et puis ça n'avance pas. Et plus on discute, plus on a l'impression qu'ils s'éloignent en fait. Mais de temps en temps, heureusement, il y a des personnes que Dieu a préparé le cœur pour qu'ils reçoivent. C'était un peu notre étude biblique. Ce mercredi soir, on a parlé beaucoup des thèmes de prédestination, de tout cela. Mais on en a conclu que finalement, dans la vie de tous les jours, quelles que soient ses convictions, ça ne change rien. Parce que on annonce la parole comme on peut. Et on sait que ça va tomber dans la bonne terre chez certaines personnes et pas chez d'autres. Mais la conclusion, je pense qu'il faut tirer, qui est un mot biblique, c'est qu'il ne faut pas perdre courage, qu'il faut persévérer.